VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous. 11h30 universel. On va tout de suite en Guinée équatoriale où le président Théodore Obiang Nguema, arrivé au pouvoir il y a près de 37 ans, affronte 6 candidats dimanche à la présidentielle. Mais les principaux partis d'opposition boycottent cette élection où le dirigeant sortant a l'assurance d'être réélu. Initialement prévu en novembre, le scrutin a été avancé au 24 avril par décret présidentiel sans explication officielle. Doyen par la longévité au pouvoir des chefs d'État africains, Obiang Nguema, qui brigue un nouveau septennat à 73 ans, avait été réélu en 2009 avec 95,37% des voix. Élection présidentielle au Tchad, l'opposition démocratique menace de ne pas reconnaître les résultats. Si la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, déclare gagnant dès le premier tour le président sortant Idriss Déby Itno. Elle entend former son propre gouvernement de salut national. L'opposition a le soutien d'une majorité de la société civile. Dobiang Asida est le président d'honneur de la Ligue tchadienne des droits de l'homme.
Nous sommes dans une poudrière. Il faut craindre donc des conflits post-électoraux à ne pas en finir. C'est à la CENI de jouer son rôle pleinement. Si une partie se trouve lésée, ça veut dire que l'arbitre n'a pas joué correctement son jeu. Donc tout cela va se retourner contre la CENI qui n'a pas su être le bon arbitre.
Dobiang Asinga des droits de l'homme au Tchad. Au Bénin, une bonne partie des citoyens disent ne pas comprendre le bien fondé de la rencontre qui a abouti à la réconciliation entre l'ancien président Yahi Boni et son successeur Patrick Talon. Ils qualifient cette rencontre facilitée par les présidents togolais ivoiriens de diversion. Pour eux, l'ex-président cherche à se procurer une certaine immunité parce que les réformes pourraient mettre à nu les scandales qui ont jalonné les 10 ans passés. Alors que pense les observateurs de la vie sociopolitique de cette rencontre entre les deux hommes. À Cotonou, rejoignons notre correspondante Ginette Fleur Adandé.
L'image montrant l'accolade entre Patrice Talon et Yahi Boni donne à Cotonou de l'ulcère à certains qui ne comprennent pas comment l'actuel président, après avoir été tant persécuté et contraint à l'exil, puisse tout effacer d'un trait. Les moins passionnés accusent l'ancien président de contraindre son successeur à une promenade inutile pour des intérêts inavoués. Le rapprochement entre les deux hommes en terre ivoirienne est mal vu. Une bonne partie des Béninois pense que le voyage sur Abidjan reste une humiliation pour le Bénin et une perte de temps énorme pour le président Talon qui se doit d'être concentré pour réussir la mission qu'il s'est assignée. Le président de l'ONG Alcrer, Martin Assogba, ne cache pas son amertume.
Laissez le président Patrice Talon s'occuper des problèmes de pauvreté, des problèmes d'électricité, des problèmes de manque d'eau, où les gens qui ont composé avec Yahi Boni ont bouffé l'argent de l'eau des pauvres populations. On ne parle pas de ça. Moi, je demande au président Patrice Talon d'avoir la tête sur les épaules. C'est le peuple béninois qu'il a élu et le peuple béninois a des exigences vis-à-vis de lui pour les 5 ans que lui-même a promis faire au cours de son investiture. Il a dit qu'il fera de l'impunité et de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Nous l'attendons.
Mais il y en a tout de même qui pensent que cette rencontre permettra au président élu de travailler dans la paix et la quiétude.
Moi, j'applaudis. Parce que si vous voulez la paix ne s'achète pas. Il faut vraiment l'humilité. Regardez ce qui se passe chez les Soudanais. La République soudanaise est divisée en deux. Vous voulez ça dans le pays ? Je les remercie encore et je remercie l'humilité du président Talon.
Les acteurs de la société civile appellent l'ancien président à quitter les projecteurs pour la retraite qui lui revient de droit depuis le 6 avril dernier afin que le nouveau président puisse se consacrer à relever ce pays qui reste dans une position très inconfortable dans bien de domaines.
Ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas de réconciliation à ne plus en finir. Les gens veulent aller de l'avant. Nous n'avons plus 5 ans, on est à 4 ans, quelques jours. Donc, qu'on se préoccupe de ce qui est important, ce qui va redonner confiance à nos enfants, à nos jeunes frères. Ces réconciliations, gardez-les pour demain. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés par autre chose, l'avenir du Bénin.
Le président Talon doit faire l'état des lieux, qu'on veuille ou pas, les concours frauduleux. Nous allons décortiquer tout ça.
Quoi qu'il en soit, il faudra que les deux hommes arrivent à calmer les militants zélés de part et d'autre afin d'éviter des tensions larvées, véritable danger pour la paix chèrement acquise. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
L'Égypte a dénoncé l'immixtion du secrétaire général des Nations Unies dans les affaires internes du pays. Ban Ki-moon avait interpellé les autorités égyptiennes à garantir un procès transparent de deux éminents activistes des droits humains accusés de bénéficier illégalement des fonds étrangers pour leurs ONG. Eric Manirakiza.
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abou, a qualifié les propos du numéro 1 onusien de tentative d'intimidation vis-à-vis de la justice égyptienne pour influencer son travail. Mardi, le porte-parole de Ban Ki-moon avait dit dans un communiqué que l'ONU suit de près les affaires judiciaires qui visent les ONG poursuivies pour acquisition de fonds illégaux de l'étranger. Le communiqué citait nommément Gamal Eid et Osam Bargat pour affirmer leur droit à un procès transparent et équitable. La clarification du gouvernement est intervenue pendant la visite du secrétaire d'État américain John Kerry au Caire, qui s'est déplacé pour manifester le soutien de l'administration Obama à la stabilité de l'Égypte. M. Kerry a aussi précisé qu'il a discuté avec le président Abdel Fattah al-Sissi des moyens de réduire les divergences avec son régime. Depuis la chute de Mohamed Morsi, le nouveau pouvoir au Caire a lancé une implacable répression contre l'opposition, toutes tendances confondues, et de nombreuses organisations internationales de défense des droits de l'homme accusent M. Sissi de diriger un régime ultra-autoritaire.
Ici aux États-Unis, les responsables présumés du scandale de l'eau contaminée au plomb qui empoisonne la ville américaine de Flint dans l'État du Michigan ont été désignés hier avec les inculpations formelles de 3 employés de la ville et de l'État. John Lindon.
Il s'agit des premières inculpations depuis le début de la catastrophe sanitaire et environnementale qui choque l'Amérique autant par son ampleur que par l'incongruité des décisions politiques prises. Michael Glasgow, superviseur du laboratoire et de la qualité de l'eau de Flint, ainsi que Stephen Bush et Michael Presby, employés au département de la qualité environnementale de l'État, ont été formellement inculpés, respectivement de 2, 5 et 6 chefs d'accusation, par un juge du tribunal de Genesee, dans le Michigan, a expliqué Bill Schwett, le procureur général de cet État du Nord des États-Unis. Les inculpés auraient notamment modifié les résultats des tests d'eau dans le but de baisser le taux de contamination au plomb qu'ils savaient pertinemment au-dessus des normes, mettant en danger la santé des familles et des citoyens de Flint, a expliqué le procureur général. Et d'ajouter que ses employés avaient le devoir de protéger la santé des habitants de la ville, désormais engagé dans un chantier pharaonique pour entièrement refaire son réseau de distribution d'eau.
10 jeunes de 18 à 24 ans ont été reconnus par le département d'État américain comme étant des leaders émergents à travers le monde. 10 jeunes dont les efforts pour créer un changement social constructif ont été salués. Parmi eux, Samuel Grzybowski, il est français et a seulement 16 ans. Il a créé et coexisté une association pour permettre à des jeunes issus de différentes religions de partager leur expérience individuelle. Samuel Grzybowski, un des 10 gagnants du prix de leader émergent et fondateur de Coexister. Le gouvernement de Damas a poursuivi ses discussions avec l'ONU à Genève, malgré le retrait de l'opposition syrienne, et a proposé la formation d'un gouvernement d'union avec des opposants qui ne soient pas, selon lui, sous influence étrangère. Et l'ONU a commencé par ailleurs à évacuer 500 blessés et malades des 4 villes assiégées en Syrie. Et puis, le dernier président soviétique, Mikhail Gorbatchev, a appelé aujourd'hui les Occidentaux à cesser de chercher à isoler la Russie et à adopter une approche plus constructive à l'égard de Vladimir Poutine. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes avec Henri Francisque. Bon après-midi sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.